un itinéraire de sainteté sur des chemins imprévus. Saint André Hubert Fournet, fondateur de la Congrégation des Filles de la Croix. Retransmission du colloque qui s'est tenu à Poitiers le 30 novembre 2002. André Hubert Fournet, curé de Saint-Pierre de Maillet, c'est le thème de l'intervention que nous allons entendre aujourd'hui, une intervention de Jacques Marcadet, professeur honoraire de l'Université de Poitiers. André Hubert Fournet, curé de Saint-Pierre de Maillet.
Il y a quelques années, au cours d'une célébration commune réunissant les Filles de la Croix et les paroissiens de Saint-Jean de Maillet, il paraît que certains de ceux-ci auraient dit « Enfin, on nous rend notre saint ». Bon, rassurez-vous, je ne suis pas de Saint-Pierre de Maillet, on vous l'a dit, ça s'entend aussi, donc il n'est pas question de vous reprendre André Fournet. Je voudrais simplement évoquer devant vous le rôle qu'il a tenu en tant que prêtre, quelle fut sa paroisse, quelles ont été ses activités. L'article nécrologique qui figure dans l'Ordo de 1835 le présente ainsi, je cite, prêtre digne d'être proposé en modèle à tous les prêtres par son humilité profonde, son oraison fervente et continuelle, son zèle vraiment apostolique, son amour de père pour les pauvres. Pourtant, les premiers temps de son séjour à Maillet ne sauraient justifier un pareil éloge. André Fournet était un bon prêtre, mais comme il y en avait beaucoup sous l'Ancien Régime. Vous connaissez peut-être la boutade de l'abbé Grégoire, c'est avant qu'il devienne évêque. D'ailleurs, il disait « On ferait une très bonne église avec des prêtres français et des évêques espagnols. » Donc, c'était un bon prêtre, mais ce n'était pas encore un saint prêtre. C'est la rencontre avec un pauvre qui allait transformer ce prêtre qui était encore très proche de son milieu d'origine, car il ne faut pas oublier que les prêtres à cette époque sortaient des couches aisées de la population. Et c'est cette rencontre qui va le transformer en serviteur des pauvres, je cite encore l'Ordo, après s'être fait pauvre lui-même et avoir quitté tous ses biens pour servir librement Jésus-Christ. Alors Fournet de Thouaret, on vous a dit tout à l'heure à juste titre ce qu'il fallait penser de ce de Thouaret, qui était très fier de ses talents de cavalier, l'archiprêtre d'Angles-sur-l'Anglin, car c'est la fonction qu'il a exercée, cet archiprêtre qui recevait fastueusement ses collègues, va après la rencontre avec ce pauvre se transformer totalement. Et à partir de 1785, il va devenir, pour les habitants de Saint-Père de Maillet, le bon père. Après la crise révolutionnaire, qui va l'éloigner momentanément de ses fidèles, donc, il va les retrouver dans la clandestinité tout d'abord, à partir de 1797, et ensuite, très officiellement, dans le cadre de l'Église concordataire. Et ce sont ces trois étapes que je voudrais parcourir rapidement avec vous. Malgré la tradition familiale, malgré l'affectueuse pression de sa mère, il semble que le jeune André Fournier, dirais-je dans ce cas-là, n'envisageait pas une carrière ecclésiastique. Pourtant, il a pu connaître quatre de ses oncles qui étaient prêtres et le cinquième était mort peu de temps avant sa naissance. Après des études médiocres, disent tous ses biographes, au collège de Châtellerault, il était venu à Poitiers faire son année de philosophie. En décembre 1769, il a reçu la tonsure. Mais attention, à cette époque, cela ne signifie rien. Cela signifie simplement qu'il sera possible au clerc tonsuré de recevoir les revenus d'un bénéfice ecclésiastique sans charge d'âme. C'était tout juste s'assurer la possibilité de percevoir des revenus d'église et non pas un engagement dans l'église, cette tonsure. Après des études de droit et après une tentative très vite avortée de carrière militaire, André est allé passer quelque temps auprès d'un de ses oncles, Jean Fournet, curé, il faut que je prononce à la Poitevine, je me suis fait reprendre, curé d'Ems et archiprêtre de Montmorillon. Ce dernier est un pasteur exemplaire. On pourrait même le qualifier de janséniste au sens moral du mot, car il n'y a pas de janséniste dans le diocèse de Poitiers. Mais par sa rigueur morale, il pourrait se rapprocher quelque peu de ce qui fut l'idéal du jansénisme primitif. C'est un homme aussi qui s'intéressait à la condition matérielle de ses ouailles. Et grâce à lui, les habitants d'Ems ont réussi un certain nombre d'innovations dans les pratiques culturelles. Alors c'est auprès de ce prêtre que André Fournier a senti s'éveiller sa vocation et le 26 mars 1774, il est entré à Poitiers au séminaire Saint-Charles. Il y avait deux séminaires à Poitiers à cette époque, le séminaire Saint-Charles et ce qu'on appelait le Grand Séminaire. Et au séminaire Saint-Charles, il étudiait la théologie. Malgré deux absences pour maladie, il a pu mener à bonne fin ses études. Cela, à la différence de certains élèves qui avaient été renvoyés, ce n'est pas le cas pour lui. Le 12 mai 1775, sa mère lui assurait un titre clérical, c'est-à-dire là, une rente de 80 livres annuelles, tant que le diacre ne bénéficierait pas, ne recevrait pas un bénéfice ecclésiastique. C'était une condition prévue de façon à ce que tout clerc, tout prêtre puisse vivre dignement. 80 livres de rente, ça représente un capital de plus de 2000 livres. C'est-à-dire, c'est une somme considérable. Et vous comprenez pourquoi j'ai dit tout à l'heure, les prêtres à cette époque ne pouvaient que se recruter dans des milieux aisés, capables d'assurer de tels revenus à leurs enfants. Il a été ordonné sous-diacre et il a reçu la prêtrise aux quatre temps de Noël 1776. Je penche plutôt pour cette date parce qu'il avait achevé à ce moment-là ses trois années de théologie, condition nécessaire exigée par l'évêque de Poitiers, Mgr Beaupoil de Saint-Aulaire, pour conférer la prêtrise. André Fournier a entamé alors la carrière classique d'un jeune clerc. Ses relations familiales, ce n'étaient que des petits notables du fond du Haut-Poitou. Ces relations familiales ne lui permettaient pas d'envisager d'emblée de recevoir un bénéfice conséquent, comme par exemple un canonicat, ou bien de recevoir une cure. Donc, il a d'abord été vicaire auprès de son oncle, le curé d'Ems. À cette époque, je le rappelle, voyez, les vicaires étaient choisis par les curés. L'évêque n'intervient absolument pas dans ce domaine. Ils sont choisis par les curés qui leur paient la portion congrue. Et ce qui explique que c'est souvent au tout dernier moment qu'un vieux prêtre accepte de prendre un vicaire. Il y a un curé des Ormes, je crois, qui a attendu d'être aveugle pour accepter la présence d'un vicaire qu'il lui fallait payer. Et c'est ce qui peut expliquer que André Fournet a été recruté par son oncle. C'est une solution d'attente, exactement comme un autre de ses oncles, celui qui va devenir chanoine de Notre-Dame à Châtellerault, avait été un temps vicaire auprès de Fournet de Frédinière, qui à l'époque était curé de Béthine. La paroisse d'Ems comptait à peine 300 communions. Bon, chiffre très discutable, mais enfin, et c'est évidemment pas une charge très lourde pour un curé qui était encore jeune. Jean Fournet était encore jeune, voyez, et il n'avait absolument pas besoin véritablement d'un vicaire, et d'ailleurs, jamais André Fournet n'a signé un acte de catholicité dans cette paroisse, ni baptême, ni mariage, ni sépulture. En janvier 1779, André Fournet a été recruté comme vicaire par le curé de Saint-Fel de Maillet. Ce qui s'appelle Saint-Pierre de Maillet à l'heure actuelle, était divisé en deux paroisses, Saint-Pierre et d'autre part Saint-Fel. C'est le curé de l'autre paroisse, donc Maillet, qu'il a recruté. Et il est amusant de regarder sur les registres paroissiaux les diverses signatures d'André Fournet. Au début, il a signé Toiré. C'est d'ailleurs le nom sous lequel il était inscrit au séminaire Saint-Charles. Bon, il a signé Toiré, puis Fournet-Toiré, et à la fin de l'année, il a signé Fournet. Et il semble qu'il ait attendu un certain temps, voyez, de façon à ce qu'on ne le confonde pas avec son oncle, qui était curé de Saint-Pierre de Maillet. Et d'ailleurs, lorsqu'il a suppléé son oncle pour un baptême, sur le registre paroissial de Saint-Pierre, il a bien précisé Fournet, vicaire de Saint-Fel. En novembre 1781, le vicaire de Saint-Pierre de Maillet, Pierre Brun, a obtenu la cure de Crémillet. Il signe sur le registre paroissial de Saint-Pierre de Maillet, donc Brun, curé de Crémillet. Et donc, une place de vicaire était libre pour André Fournet, qui est passé d'une paroisse dans l'autre. Le dernier acte qu'il a signé à Saint-Fel date du 1er septembre, et dès le 30 décembre, on voit la signature de notre vicaire à Saint-Fel. À fin 81, André Fournet avait déjà reçu la cure de Saint-Pierre de son oncle. Vous savez, à cette époque, lorsque des bénéfices curiaux étaient intéressants, je dis au point de vue financier, bien souvent, on s'arrangeait pour les conserver dans la même famille. On se succédait d'oncle à neveu. Et en résignant sa cure en faveur d'André Fournet, son oncle la maintenait dans la famille Fournet. En janvier 1782, André Fournet signe encore vicaire. Le 4 février, apparaît le premier acte où il signe curé de Saint-Pierre et il a pris officiellement possession de cette paroisse le 12 février. Alors désormais, c'est lui, André Fournet, qui allait être responsable de Saint-Pierre de Maillet avec, de 1784 à 1790, l'assistance d'un vicaire Guillot. Alors, Maillet, je m'excuse, je simplifie, je ne reprends pas la distinction des paroisses. Maillet relevait de la sénéchaussée du Blanc et de la généralité de Bourges. Et c'est pour ça qu'il n'y a aucun document concernant cette période aux archives de la Vienne. Donc, pour évoquer la paroisse, je suis obligé de me reporter à la description qui en a été faite au début du XIXe siècle par le premier préfet de la Vienne, Cochon, dit Cochon de l'Apparent. Alors, Cochon de l'Apparent souligne la pauvreté de cette partie orientale de son département, un pays de bruyères et de landes, dit-il, cela malgré quelques défrichements. Il y a un critère, d'ailleurs, qui montre que vous avez affaire à des régions pauvres. En 1915, l'armée y a créé deux immenses champs de tir. Donc, si l'armée a acheté, c'est que ça ne valait pas grand-chose. Quant aux habitants, le jugement de Cochon de l'Apparent est très sévère, donc je ne le reprendrai pas. Mais si ça s'avérait exact, finalement, on ne pourrait que souligner l'énorme travail qu'ont pu effectuer les prêtres dans cette région. Et d'ailleurs, Cochon de l'apparent rend hommage à l'action du clergé auprès de ce qu'il appelle ces barbares. Saint-Pierre de Maillé est une des sept paroisses de l'archiprêtré d'Angles-sur-Langlin. Ce n'est pas la plus peuplée, elle compte 530 communiants, alors que Saint-Fel en comptait 600. Et en 1790, au premier recensement à peu près valable qui est fait, ces deux paroisses comptaient respectivement 903 et 1264 habitants. On retrouve toujours le même écart. Lors de la tournée épiscopale de Mgr de Beaupoil de Saint-Aulaire en 1773, Antoine Fournet, qui était l'oncle d'André, le curé à cette époque, n'a pas fait d'allusion à l'état de son église, à la différence des curés de Luray ou de Saint-Fel-de-Maillé qui se plaignent du mauvais état des édifices, comme d'ailleurs à peu près le tiers des curés des paroisses visitées en 1769 et 1773. Elle était sûrement en mauvais état, parce qu'en mai 1778, l'évêque lui fait parvenir à Antoine Fournet 108 livres pour effectuer des réparations. Ce n'est pas un geste de générosité de la part de l'évêque. L'évêque était décimateur, percevait une partie des revenus de la paroisse, et donc, en tant que tel, se devait de contribuer aux travaux dans l'église. Ces travaux, il y avait des travaux à faire dans le chœur, et d'autre part, il fallait acheter les nouveaux livres liturgiques, car Beaupoil de Saint-Aulaire en a fait imprimer et en a exigé l'achat. Alors, l'église, malgré ses quelques réparations, était restée en très mauvais état. C'est ce que souligne la visite qui a été faite en 1783, donc 10 ans plus tard, par Augier, le curé d'Ems. Il fallait réparer, par exemple, le plafond du chœur. André Fournet se plaignait de recevoir la pluie quand il célébrait la messe. D'autre part, il fallait renouveler les chasubles. Ça serait valable d'ailleurs pour beaucoup de paroisses du Poitou à cette époque. Il fallait renouveler les chasubles, les linges sacrés, les nappes, et les moins jeunes d'entre nous se rappellent ça, les cartons d'autel, qui étaient en piteux état. Alors, les réparations et les achats étaient estimés à plus de 383 livres, et il semble bien que le malheureux André Fournet en ait été de sa poche, les deux autres décimateurs ayant oublié de payer ce qu'ils devaient, d'acquitter leur participation. Dans ses archives, il n'est jamais fait mention du presbytère. Il est vrai que ce n'était pas l'objet de la visite. La seule description que nous possédons du presbytère de Saint-Pierre de Maillé, c'est au moment où il a été mis en vente comme bien national en 1796. Alors, l'ensemble comprend la maison presbytérale avec des chambres, le nombre n'est pas précisé, une cour, un jardin, une grange, ce qui est indispensable puisque le curé était décimateur, il fallait bien qu'il mette les récoltes ainsi recueillies quelque part. Il y avait une écurie et autres dépendances. Alors, le tout couvrait deux boisselets mesure d'angle, c'est-à-dire l'équivalent de 33 arts. Alors, dans le cadre du diocèse de Poitiers, le desservant de Saint-Pierre de Maillé figurait dans la catégorie des privilégiés. Évidemment, il est certes loin des revenus de certains, mais, par exemple, il est favorisé par rapport aux curés à portion congrue, et même ceux qui n'arrivent pas à toucher la portion congrue. Évidemment, il ne touche pas 6000 livres, comme par exemple le curé de Breloux, paroisse qu'on appelait, à cause de sa richesse, le petit évêché. Mais il touche quand même beaucoup plus que son voisin, le curé de Luray, qui ne touchait en 1773 que 400 livres, c'est-à-dire moins que la portion congrue fixée par l'État à cette époque. Le desservant de Saint-Pierre de Maillé avait la chance d'être en partie décimateur de la paroisse. Il y avait trois parts à peu près égales, réparties entre l'évêque, l'abbé d'Angles-sur-Anglin et d'autre part le desservant. S'ajoute à cela le casuel, qui est très faible, si j'en crois les doléances des curés en 1728, mais c'est normal, ils remplissaient une feuille d'impôt pour les décimes ecclésiastiques, ils n'avaient pas intérêt à gonfler leurs revenus. Toutefois, à cette époque, François Brion, l'homonyme simplement du vicaire que nous retrouverons, déclarait qu'à Saint-Pierre-de-Maillé, il touchait 25 livres de casuel. En 1790, le revenu de Saint-Pierre-de-Maillé était estimé, j'arrondis, à plus de 2300 livres. Bon, là-dessus, il fallait prélever les 400 livres qu'André versait à son oncle. Bon, ce dernier avait résigné sa cure, mais conservait quand même un petit revenu. Il y avait 202 livres d'impôts. Là, ça, 90 sont les impôts d'État. Ce ne sont plus les décimes, les impôts d'église sur l'église, pour l'église, comme auparavant. Et j'attire votre attention sur ce dernier chiffre, 700 livres pour le vicaire. C'est-à-dire que, généreusement, André Fournier donnait à son vicaire deux fois la portion congrue qui avait été fixée pour ces derniers. Je crois que cette générosité mérite d'être soulignée. Alors néanmoins, même si le revenu du curé de Saint-Pierre-de-Maillé se limite à 1000 livres, c'est quand même fort confortable à l'échelle du diocèse de Poitiers où les revenus sont faibles. Alors à cela, il faudrait ajouter la stipendie des Lorando qui rapporte 120 livres, joint à la fortune personnelle d'André Fournier. On comprend que les premiers mois, il les reçut assez fastueusement, ses confrères. Les réunions qui se déroulaient à Saint-Pierre-de-Maillé étaient ce que l'on appelle les conférences ecclésiastiques. C'est-à-dire que pendant 10 mois de l'année, chaque mois, les prêtres d'un archiprêtré ou d'une partie d'archiprêtré, lorsqu'il était trop vaste, comme par exemple celui de Parthenay, et qui allait de Poitiers jusqu'aux limites de l'actuelle Vendée, voyez, se réunissaient pour discuter de problèmes de théologie ou de morale. Alors, l'archiprêtre en titre, était théoriquement l'abbé d'Angle sur l'Anglin. Mais les évêques de Poitiers se sont arrangés pour que les archiprêtres soient dans des paroisses dont ils étaient collateurs. À cette époque-là, la nomination des curés ne relevait pas des évêques, mais relevait d'une foule d'autres institutions, des chapitres, des monastères, voire même des laïcs. L'évêque de Poitiers nommait à peu près le tiers des cures de son diocèse. Et comme il avait besoin de relais solides entre lui et son clergé, il est évident que les archiprêtrés, les sièges d'archiprêtrés, se trouvaient dans des paroisses à la nomination de l'évêque. D'où Saint-Pierre-de-Maillé, d'où Hens, par exemple, à Montmorillon, et on pourrait multiplier les choses. Bon, nous ne connaissons pas les réactions, les premières réactions d'André Hubert Fournier devant les prémices de la Révolution. L'a-t-il accueilli favorablement, comme beaucoup de ses confrères? On n'en sait rien. Il n'y a pas de document là-dessus. Par contre, une chose est sûre, c'est que dès le début, André Fournier s'est montré hostile à la prestation du serment en faveur de la constitution civile du clergé. Et le décret exigeant ce serment avait été ratifié par le roi, qui avait un droit de veto, qui avait été ratifié par le roi le 26 décembre 1790. Or, dès le 31 janvier 1791, André Fournier ne figure plus sur la liste des prêtres fonctionnaires. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il était considéré comme réfractaire, comme ayant refusé le serment. Notons que cela ne l'empêchait pas, dans l'attente de son remplaçant, de continuer à exercer le service paroissial. C'est un véritable paradoxe de constater que c'est dans les archives de l'évêché que l'on trouve un document portant la main au sujet de... C'est marqué Frédinière, mais enfin, c'est lui qui est visé. Un document portant la mention « jureur rétracté », en parlant d'André Fournier. Bon. Or, il y a deux explications très faciles. La première, c'est que ce tableau, dressé en 1801, ce qu'on appelle le manuscrit de Podno, est bourré d'erreurs. Absolument bourré d'erreurs. Et à la rigueur, l'erreur reproduite dans ce tableau pourrait s'expliquer. Il semble bien qu'à cette époque, André Fournet ait été victime de calomnies lancées par des gens de la petite église. Et c'est de ce groupe de paroissiens que serait venue cette dénonciation calomnieuse. Par contre, et pour les autorités civiles, il ne fait pas de doute qu'André Fournet a toujours été un réfractaire. Par exemple, c'est assez amusant, savent qu'il est réfractaire, donc ces braves administrateurs de Montmorillon se posent un grave problème. On se demande si l'enfant d'un couple qui a été baptisé par le curé réfractaire, c'est-à-dire Fournet, est un enfant légitime ou non. Est-ce que le mariage célébré par un réfractaire est valable ? Grave problème. Enfin, pour les membres du tribunal du procès à canonisation, il n'y a aucun doute, André Hubert Fournet a toujours été un réfractaire. Et ils ne se sont pas posés de questions. Cela malgré les inquiétudes de certains clercs poitevins qui avaient vu les dénonciations de 1801. Donc, curé réfractaire, André Hubert Fournet fait partie de cette petite minorité, il faut bien le dire, cette petite minorité de prêtres réfractaires d'emblée ou rétractés par la suite, voyez, qui refusent le serment civique. Dans le diocèse de Poitiers, il y a les réfractaires représentent à peine 35%, hein, 35-36%. Les autres ont prêté serment. Et dans l'archiprêtré d'Angles, sur les 9 prêtres, 7 curés, 2 vicaires, sur les 9 prêtres, 7 ont prêté le serment à la constitution civile du clergé. Ne l'ont refusé qu'André Fournet et François Rion, le vicaire de Saint-Felle de Maillé. Bon, si l'archiprêtre d'Angles-sur-Anglin n'a pas réussi à entraîner ses confrères, néanmoins, on peut supposer qu'il a eu une influence sur les prêtres du voisinage, puisque les curés de Senan, Lapuy, Laigné-les-Bois, Saint-Radegonde, Agatine ont refusé le serment. Dès le 8 mai 1791, la paroisse de Saint-Pierre de Maillé a été pourvue d'un nouveau desservant en la personne de François Chrétien, un châtellerodais, qui jusque-là était curé de Salaigne, dans la région de Saint-Jean-d'Angély. Alors, c'est François Chrétien ayant été élu par la municipalité, par les électeurs donc, du canton. Ensuite, il a pris possession de la cure qu'au mois d'octobre 1991. C'est à partir du 1er décembre qu'il a été payé comme curé de Saint-Pierre. Il paraît que François Chrétien aurait proposé à André Fournet de partager le presbytère, ce que ce dernier a dignement refusé, et il s'est retiré près de son oncle, Antoine Fournet, l'ancien curé qui avait résigné la paroisse, à Vaux. Et comme je l'ai dit, il a continué son travail pastoral auprès des fidèles. Or toutefois, contrairement à certaines descriptions hagiographiques, il ne semble pas, si l'on consulte les registres paroissiaux, que l'intrus ait été mal accueilli. Je constate qu'il a célébré autant d'actes de catholicité, voyez, proportionnellement qu'André Fournet durant les 9 premiers mois, et ensuite, durant toute l'année 92, il en a célébré en moyenne autant que durant les prêtres Antoine ou André Fournet durant les années 80. Bon, il n'a peut-être pas été mal accueilli, mais enfin, le voisinage de cet intrus et du curé réfractaire était extrêmement gênant. Et voilà pourquoi André Fournet a dû se réfugier à Poitiers. Et lorsqu'il a été visé par l'arrêt de proscription des prêtres réfractaires du 26 août 1792, il s'est résigné, comme nombre de prêtres poitevins, à prendre un visa pour l'Espagne, un passeport pour l'Espagne. Et c'est surtout vers l'Espagne, que sont partis les Poitevins, une petite minorité vers l'Angleterre et encore moins vers la Savoie. En septembre 1792, donc, André Fournet s'est embarqué à Saint-Jean-de-Luz en direction de Saint-Sébastien et de là, il a gagné la petite localité de Los Arcos où il a bénéficié de la protection de plusieurs familles. Alors, s'il a édifié tout le voisinage par ses qualités morales, par son zèle, par sa charité, il n'a jamais pu se livrer au moindre travail pastoral. C'était absolument interdit par le gouvernement espagnol. Vous voyez, d'une part, les Espagnols se méfiaient terriblement de tous les prêtres français. Pensez donc des gens qui avaient été gangrenés par le jansénisme, qui avaient été touchés par la philosophie des Lumières. Bon, c'était des gens dont il fallait se méfier, il ne fallait pas leur confier la moindre tâche pastorale. Et d'autre part, Charles III redoutait un peu trop le voisin d'au-delà des Pyrénées, qui était un peu trop puissant à son gré. Alors, les prêtres réfugiés à Los Arcos, je crois qu'il y en a 6, il y en a 6 sur le document que m'a aimablement communiqué Sœur Anna, ces prêtres pouvaient dire à la messe, mais c'est tout. Et on constate que cette licence, cette autorisation a été renouvelée plusieurs fois pour André Fournet. C'est le moment où il aurait envisagé de rentrer dans un couvent de Carmes, mais le supérieur lui aurait fait comprendre que de grandes choses l'attendaient en France. L'occasion de rentrer en France serait présentée en 1797, quand dans les milieux des exilés, en Espagne ou au Portugal, j'ai eu plusieurs lettres entre les mains, s'est répandu le bruit que la persécution religieuse avait cessé en France. De ce fait, en juillet 1997, André Fournet a repassé la frontière et sur son petit cheval espagnol, il a gagné Poitiers à la grande stupéfaction des gens qu'il a retrouvés. Et pour cause, voyez, d'une part, la législation de répression, d'exception contre les prêtres, n'avait pas été abrogée. Donc n'importe qui pouvait faire du zèle. Et d'autre part, le contexte politique avait totalement changé. Et à partir du coup d'État du 18 Fructidor, c'est-à-dire de septembre 1997, coup d'État qui a suscité une nouvelle vague de terreur religieuse. Il y a deux étapes de terreur religieuse dans la Révolution. Il y a la terreur proprement dite à partir de 1992-1993, et il y a aussi, et on l'oublie un peu trop, cette seconde terreur au moment du Directoire, qui a entraîné pratiquement autant de morts que la première. Je cite là les administrateurs de Montmorillon. Jusqu'au 18 Fructidor, les prêtres réfractaires n'ont pas mis de borne à leur licence. Mais désormais, les ecclésiastiques sont surveillés de partout et les réfractaires cherchés avec soin. Bon, c'est une chose que André Fournet ignorait lorsqu'il a quitté l'Espagne et a regagné le Poitou. La persécution avait recommencé, et c'est d'ailleurs le moment où un nouveau contingent de prêtres est envoyé vers les sinistres pontons de Rochefort. Peut-être que la municipalité d'Angles aurait voulu éviter ce sort à André Fournet, ou bien a-t-elle cherché à se couvrir aux yeux du département qui, lui, était plus rouge. Enfin, un passeport pour l'Espagne aurait été rédigé pour André Fournet, qu'il n'a jamais pris et encore moins utilisé. Resté en France, il a donc été réduit à la clandestinité. Et dans cette clandestinité, André Fournet rejoint une petite centaine de prêtres, vous voyez, sur les quelques 750 à peu près qu'il y avait dans le diocèse auparavant, il faudrait ajouter les chanoines, etc. Bon, et il rejoint la centaine de prêtres qui continuent à officier dans le diocèse, dans la clandestinité. Vous y trouvez des réfractaires de toujours, comme par exemple le groupe de Poitiers, avec Soyer, futur évêque de Luçon, avec Pruel, qui redevient ensuite curé de Sainte-Radegonde à Poitiers, avec de Montfrebeuf, un ancien chanoine d'Angoulême. Bon, il y retrouve des jurés rétractés. Mais continue le culte dans la clandestinité aussi. Et ce qu'il ne faut pas oublier, ce sont des jureurs obstinés, comme par exemple les frères Lespinet, dans la région de Loudun, qui ne feront leur soumission qu'en 1804. Et ces prêtres maintiennent un culte clandestin avec parfois la complicité des autorités. C'est le cas en particulier à Saint-Léger de Montbrillet. Il ne semble pas qu'André Fournet ait bénéficié de la moindre complicité de la part des autorités. Il a été obligé de se cacher, se déplacer, déguisé en fagoteur, c'est-à-dire ces ouvriers qui vont couper les agents, les brandes, pour en faire des tas d'usages, quoi. Or, plusieurs fois, il a frôlé l'arrestation, ce que rappellent les ouvrages sur lui. Il ne se déplaçait de lieu sûr en lieu sûr que la nuit, mais il n'hésitait pas à sortir le jour, moment le plus dangereux, parce que de nuit, toute visite domiciliaire était impossible. De jour, il était à la merci de la moindre dénonciation. Le plus souvent, il officiait dans la grange des petits Marcilly, passant des nuits entières à prêcher et à confesser, avant de célébrer une messe matinale. Et il délivrait les sacrements. C'est ainsi qu'un petit carnet conservé à l'appui, dans les archives de l'appui, conserve la trace de plusieurs baptêmes qu'il aurait célébrés à cette époque. Alors, dans la Vienne, les ouvriers étaient peu nombreux, et de ce fait, leur champ pastoral était extrêmement vaste. Alors, celui d'André Fournet couvrait les deux anciennes paroisses de Maillet, les deux anciennes paroisses d'Angle, les anciennes paroisses de la Bussière à l'appui, et au besoin, il allait jusqu'à Vic-sur-Creuse. Alors, dans la région, officiait un autre prêtre clandestin, c'est Claude du Chastaignier, un ancien chanoine de Notre-Dame-la-Grande, qui est connu dans la clandestinité sous le surnom de Perpétue. Et ils ont collaboré quelques années jusqu'au moment de leur rupture lors du Concordat. La paix religieuse étant revenue en 1799, André Fournet avait pu reprendre son travail pastoral au grand jour. Et aussi, il figure dans un tableau du clergé, rédigé par Beauregard, sous la rubrique curé de Maillet, avec comme appréciation, je cite, « du zèle, de la piété, des mœurs excellentes ». Pour des raisons politiques, le préfet est moins enthousiaste dans son appréciation. Il écrit « un zèle un peu trop ardent ». Enfin, ce n'est pas le vicaire général, c'est une autre autorité. Donc, au moment où l'Église allait être réorganisée dans le cadre du Concordat, André Fournet était à nouveau au milieu de ses fidèles. André Fournet se consacrait surtout à Saint-Pierre-du-Maillet et du Chastaignier à Angle, où en 1801 il remplaçait le curé défaillant. Or, une telle activité ne pouvait que susciter l'inquiétude des autorités. Par exemple, en 1800, le commissaire du gouvernement près de la municipalité d'Angle signalait des rassemblements importants à la Boutinière et à Marcilly sur le territoire de Maillet, de même que dans la chapelle Saint-Pierre à Angle-sur-Langlin. Et dans ces rassemblements, on critiquait les prêtres qui s'étaient soumis aux lois. En juin 1802, le sous-préfet de Montmorillon fait état de protestations qui ont été émises par des paroissiens de Saint-Pierre de Maillet qui refusaient les prêtres réfractaires ou qui les qualifiaient de contre-révolutionnaires. Comme le remarque le sous-préfet, il s'agit là d'un petit groupe sans prêtres qui se réunissait dans l'église pour de vagues cérémonies sans célébration. Et comme le reconnaît le sous-préfet, la masse des fidèles dans toute cette région suit Frédinière, décidément, on lui donne toujours le deuxième nom de son oncle, ou Duris, et les autres prêtres assermentés. Et le sous-préfet a beau interdire à ses anciens réfractaires de prêcher, Ben, ils font comme s'ils n'avaient pas entendu. Quand la liberté de culte a été rétablie, André Hubert Fournet s'est installé momentanément à Maillé chez un particulier au début. Dans le cadre de la réorganisation du diocèse, Saint-Pierre de Maillé devenait une succursale de Saint-Savin. Alors, dans le registre des curés et des servants, André Fournet, né le 7 décembre 1742, même les administrations peuvent se tromper, voyez, figure au numéro 256. Alors, dans le tableau des paroisses, dressé par l'évêque et accepté par le premier consul, il est mentionné comme curé de Saint-Pierre de Maillé. Mais deux problèmes se posent. Bon, le premier, c'est un problème bassement matériel, je le reconnais. Enfin, Saint-Pierre de Maillé n'est que l'une des 12 succursales de l'arrondissement de Montmorillon. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas de curé officiel, donc rétribué par l'État, mais que leur desservant est à la charge des paroissiens, ce qui ne va pas sans inconvénient. Or, comme le rappelle le sous-préfet, à Angles, à Brigueuil-le-Chantre, à Maillé, il y a certes des familles aisées, mais en petit nombre. Aussi, il n'est pas sûr qu'elles veuillent assurer jusqu'au bout les frais du culte. Je cite le sous-préfet. « Les habitants qui avaient fait preuve de zèle et de désintéressement avant le concordat sont plus froids quand il s'agit de payer les desservants. » Et de fait, voyez, plusieurs paroisses des Deux-Sèvres, et ce ne sont pas des paroisses à majorité protestante, des paroisses comme Effres, Égonet, Chandonnier, ont refusé de payer les impôts nécessaires pour entretenir les desservants, et il n'y en a pas eu. Bon, pour pallier cette situation, le sous-préfet envisageait de supprimer quelques succursales et de façon à redistribuer les sommes globales qui lui étaient allouées. Alors, nous ne savons pas quelle suite a été donnée à cette demande. Une chose est sûre, c'est que André Fournet est resté à Saint-Pierre-de-Maillé et a été payé par les paroissiens. Cependant, il y a un second problème qui se pose à ce moment-là. Sa présence, la présence d'André Fournet, était contestée par un certain nombre de paroissiens qui avaient suivi Claude du Châtaignier dans sa dérive. Lui, à qui, je cite, infecté de l'esprit janséniste, devint ensuite schismatique et suivit la secte qu'on appelait la Petite Église. Vous avez, dans la partie du Haut-Poitou, vous avez 7 ou 8 prêtres, tout au plus, que l'on peut accuser d'appartenir à la Petite Église, et encore là-dessus, vous en avez 3 qui viennent d'autres diocèses. Alors, à son grand regret, André Fournet avait rompu avec lui et coupé tout rapport, malgré de nombreuses années de collaboration dans la clandestinité ou après 99. Les partisans de la Petite Église étaient assez nombreux à Angles, où du Châtaignier faisait office de curé en l'absence du desservant. Et quelques familles de Maillé les avaient suivis. Et il semble bien que ce soit dans ce milieu que soit née l'accusation injustifiée de prestation de serment en 91. Après le départ de Duchastenier pour Poitiers, où si j'en crois Grégoire XVI, il était devenu le pape de Poitiers, il était considéré comme tel. Après le départ du Châtaignier, son influence a très rapidement décliné. Mais incontestablement, André Fournet a été très affecté par cette rupture et par l'opposition momentanée de certaines de ses ouailles. Alors, ce n'est pas, c'est peut-être une des raisons, mais ce n'est pas l'unique raison qui l'aurait amené à envisager de se retirer. Il faut faire entrer en ligne de compte son état de santé. Dans la lettre qu'il adresse à l'évêque de Poitiers, Monseigneur Bailly, en janvier 1804, il écrit « La disette de prêtres dans différentes paroisses m'a fait fort travailler de manière à épuiser mes forces. » Enfin, un dernier facteur a pu jouer, ce sont ses scrupules à l'égard du serment concordataire, lui qui avait refusé le serment à la constitution civile du clergé. dans une lettre du 23 janvier, il mentionnait que la prestation de ce serment avait été faite et que, je cite, « son adhésion au concordat n'est point non plus équivoque ». Mais, après quelques temps de réflexion nourrie de lecture, il a fait part à l'évêque de ses réticences à l'égard de cet engagement. Commencer. Néanmoins, lorsque Mgr Barral a administré le diocèse de Poitiers, il l'a confirmé, André Fournet, comme desservant de Saint-Pierre de Maillé, et à cette occasion, André Fournet a renouvelé le serment de fidélité au Concordat devant le préfet de la Vienne, cela le 4 juillet 1805. Curé de Maillé, il allait le rester encore 15 ans. La paroisse Saint-Pierre de Maillé est un champ pastoral extrêmement vaste, surtout pour un desservant qui est affecté physiquement par les austérités de sa vie. Et songez à la vie qu'il menait à partir de sa conversion, je veux dire à partir de 1785. Songez aux difficultés de sa vie en Espagne. Songez aux difficultés dans la clandestinité. Or, cette commune, qui est une des plus vastes de la région, elle couvre 7500 hectares. Et même les services de l'évêché l'a qualifié, je cite, « paroisse d'un service très difficile en raison de la présence de roches et de la distance des villages ». Or, les difficultés étaient encore accrues par la présence de la Gartempe, qui coupait la paroisse en deux, et cela à une époque où il n'y avait pas de pont. Alors, heureusement, dans la partie occidentale de la paroisse, il y avait deux chapelles privées, à la Boutinière et au Closet. Et André Fournet a écrit à l'évêché pour demander la possibilité que l'on y conserve les espèces sacrées de façon à les avoir sur place, à faciliter, évidemment, le transport auprès de malades de cette partie. Outre cela, André Fournet avait à s'occuper de la nouvelle paroisse d'Angles à cause des problèmes suscités par le curé, entre guillemets. Ce n'est pas le desservant officiel, c'est Duchâtaignier. Mais ça vous montre l'influence qu'il a pu avoir auprès des habitants d'Angles, puisque dans leur doléance, ces derniers le qualifient de curé, alors qu'il n'a jamais été officiellement. Donc, gérer cette paroisse, gérer Saint-Pierre de Maillé était difficile. Et voilà pourquoi, en avril 1805, les autorités ecclésiastiques avaient envisagé de nommer un vicaire à Saint-Pierre de Maillé. Cette fois-ci, les conditions sont changées. C'est l'évêque qui peut nommer un vicaire. Et sur le contingent, si vous voulez, de vicariats qui sont payés par le gouvernement, il peut en disposer. Et on va avoir ce véritable paradoxe, vous voyez, d'un curé qui est payé par les paroissiens, alors que son vicaire est rétribué officiellement par l'État. Donc, en 1805, Charles-François Guillet était nommé à Maillé. En 1807-1808, si l'on consulte les registres de catholicité, ce ne sont plus les registres paroissiaux maintenant, les registres de catholicité, on voit qu'ils se partagent les tâches. En 1809, c'est surtout Guillet qui signe les actes. En 1810, c'est uniquement André Fournet qui a assuré, puisqu'il les a signés, je suppose qu'il les a assurés, qui a assuré tous les baptêmes, les mariages et les enterrements. Alors André Fournet n'avait pas simplement en charge sa propre paroisse. Il y arrivait de suppléer d'autres confrères, en particulier le desservant de la Bussière. Bon, malheureusement, les registres de catholicité n'ont pas été déposés aux archives. Non, je n'ai pas pu retrouver trace du travail pastoral d'André Fournet dans cette paroisse. Mais enfin, le curé était né en 1719, était très fatigué, et sur les registres de l'évêché, il porte l'appréciation « esprit curieux ». Donc André Fournet a sans doute été souvent obligé de le suppléer. Bon. André Fournet a un travail pastoral. En outre, son talent de prédicateur fait qu'il est souvent sollicité pour intervenir en chaire. S'il a accompagné le père Bétan lors de la mission d'Angle, c'est lui ensuite qui est allé, par exemple, à Civray, mission où il a eu un retentissement considérable. Enfin, d'autre part, André Fournet, ayant l'expérience d'un archiprêtre d'Ancien Régime, avait été chargé de restaurer les conférences ecclésiastiques dans le canton de Saint-Savin. Voyez toutes les tâches pastorales qui pesaient sur ce curé, sur ce desservant. J'ajouterai en outre qu'il avait la responsabilité spirituelle de l'Institut Nouveau. Et voyez, on voit là l'ampleur de la tâche à laquelle a dû faire face André Fournet. Et finalement, il s'est résigné à abandonner sa paroisse entre les mains d'un prêtre qu'il avait lui-même formé, Louis Forget. Et désormais, il allait se consacrer entièrement à ses chères filles. Bon, s'il n'abandonnait pas totalement le travail pastoral, puisque en cas de nécessité, il intervenait à l'appui ou à Senant, ben, désormais, il avait mis un terme à 40 années d'apostolat à Saint-Pierre de Maillet, comme vicaire d'abord, comme curé ensuite. Ces derniers aspects, cet aspect que je viens d'évoquer, évidemment, à grands traits, bon, ce n'est pas l'un des moindres mérites d'André Fournet. Et d'ailleurs, c'est le curé de village qui a été aussi honoré le 10 juillet 1910. Aussi, pour terminer, je reprendrai les phrases prononcé à cette occasion par Benoît XV. Néanmoins, il y a, croyons-nous, une catégorie de personnes que le décret d'aujourd'hui doit intéresser tout particulièrement. Ce sont les curés qui, à bien plus juste titre que tous les autres ecclésiastiques, peuvent dire « André Hubert Fournet fut des nôtres ». Je vous remercie de votre attention.
André-Hubert Fournet, curé de Saint-Pierre-de-Maillé, vous venez de suivre l'intervention de Jacques Marcadet, professeur honoraire de l'Université de Poitiers. Un itinéraire de sainteté sur des chemins imprévus. Saint-André-Hubert Fournet, fondateur de la Congrégation des Filles de la Croix. Retransmission du colloque qui s'est tenu à Poitiers le 30 novembre 2002.